Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, et Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du nouveau podcast Unitaire. Bonjour Magali.
Bonjour Michel.
Nous avons donc choisi de consacrer ce podcast aux défenseurs de l'environnement parce que c'est l'objet de mon mandat et parce que ça nous semble important de d'abord donner une définition et de préciser mieux le cadre dans lequel les défenseurs interviennent. Et cette série de podcasts va s'inscrire également dans une sorte de démarche d'information sur qui sont les défenseurs, quelle est l'importance de leur travail, de leur rôle, de leur action en faveur de la protection du climat, de l'environnement et de la biodiversité.
Et nous avons choisi de faire ce podcast parce que nous observons avec une certaine perplexité et une certaine tristesse la montée d'un discours disqualifiant les actions des militants, des associations de la société civile et plus globalement des défenseurs de l'environnement et des défenseurs des droits humains. Finalement, il existe un fossé immense entre la valeur et l'impact de ces actions pacifiques qui sont menées par les défenseurs et ce qui est finalement véhiculé par certains responsables politiques et relayé par certains médias qui n'hésitent pas à les qualifier d'éco-terroristes, de pervers ou encore même d'éco-totalitaristes. Et donc le but, c'est de faire de cette série de podcasts un discours qui permet de contrarier ce dénigrement qui est savamment mis en scène et qui n'est pas bien sûr sans effet sur la compréhension de l'action en faveur des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, nous constatons, et nous sommes nombreux à le constater, que la crise climatique et environnementale précarise l'ensemble des droits humains, leur effectivité. Et cette crise nous invite à approcher le corpus des droits humains dans une lecture finalement plus collective, autour de notions clés comme l'intérêt général ou encore les biens communs. Et donc notre objectif dans ce podcast est de synthétiser les dimensions fondamentales d'une action efficace en faveur de la protection de l'environnement et des droits humains. Par exemple, nous voudrions aborder comment mener un plaidoyer qui soit efficace, comment se saisir aussi des leviers juridictionnels ou encore comment interagir avec les mécanismes de protection des Nations Unies.
Alors ce sera sous la forme d'un podcast, une fois toutes les deux semaines, entre nous ou bien avec des invités qui seront des experts, ça peut être des militants, des universitaires, d'autres catégories de défenseurs. Et nous allons à chaque fois, à chaque épisode, essayer de mieux approfondir un thème, un enjeu, comme la justice climatique, ou bien ce qu'on appelle les procédures Bayon, ou bien essayer d'élucider un concept de droit, ou bien travailler sur une catégorie de défenseurs comme les enfants défenseurs de l'environnement. Et puis dans une deuxième partie de podcast, nous ferons un point sur les principales actualités du domaine, car c'est un domaine qui est très vivant, et nous espérons, Magali et moi, que vous trouverez du plaisir à nous écouter.
Dans ce premier épisode, nous souhaitons aborder quelques fondamentaux. D'abord, bien sûr, le statut des défenseurs de l'environnement et des droits humains, et puis les menaces qui pèsent sur eux et les moyens déployés pour leur protection. Michel, est-ce que tu pourrais nous parler de la notion de défenseur, qui est une notion clé aux Nations Unies, mais qui est encore très mal connue dans beaucoup d'espaces ?
Alors effectivement, donc la notion de défenseur, elle est d'abord définie par un texte. Ça a été un combat de plusieurs années, de même dizaines d'années, entre la société civile et les États, pour aboutir à un texte qui a été adopté en 1998 et qui s'appelle la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs. En fait, elle porte un titre beaucoup plus long, mais trop compliqué à dire. Mais ce qui est important, c'est l'article 1, qui rappelle que est un défenseur tout individu, groupe ou organe de la société qui protège et qui promeut les droits humains. Et donc, c'est une définition qui est très large, qui montre qu'on n'a pas besoin d'être dans une organisation non gouvernementale, dans un syndicat ou encarté ailleurs pour être un défenseur. Toute personne, tout individu qui promeut et qui protège les droits humains est un défenseur. Et la grande difficulté depuis 1998, c'est de faire comprendre à un grand nombre de personnes que, sans le savoir, ils sont des défenseurs. Et ça va être l'objet de notre discussion, de montrer en fait que la famille est beaucoup plus large que ce qu'on imagine au départ, et que ceux qui ne pensaient à l'époque ne pas faire partie de la famille le sont, et qui sont donc éligibles au mécanisme de protection des Nations Unies. Alors, je termine en disant peut-être que ce qui est important, c'est que en 1998, le monde a accepté cette définition. Mais le constat que je fais à l'heure actuelle, à cause du mandat que j'ai occupé, ce qui est, si on devait recommencer la discussion aujourd'hui, jamais on aboutirait à cette déclaration. Donc c'est un élément très précieux qu'il faut garder, et garder cette définition qui est à l'heure actuelle combattue par un grand nombre d'États.
Alors, au-delà de cette définition, on comprend bien qu'un défenseur, ce n'est pas un statut. Il ne faut pas être avocat ou magistrat ou syndicaliste pour être un défenseur. C'est par l'action qu'on mène qu'on devient défenseur. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu les limites autour de cette notion ?
Alors, il n'y a pas véritablement de limite, sinon une seule qui est vraiment très contraignante pour tous les rapporteurs spéciaux, et notamment pour moi. C'est la question de la violence et de la violence physique. Ne peut pas être reconnu comme défenseur, ou plutôt ne peut pas être défendu par les Nations Unies, une personne qui a utilisé la violence. Alors c'est une notion assez complexe, mais en gros c'est la violence physique. Quelqu'un qui va lancer un cocktail Molotov ou des pierres ne peut pas être protégé comme défenseur. Quelqu'un qui par contre résiste à la violence de la police, il est tabassé par la police, il donne des coups de pied, il blesse un policier, lui, c'est pas de la violence, c'est de la légitime défense. La violence contre les biens, c'est autre chose. Une personne qui va casser une barrière pour aller faucher un champ de culture transgénique, c'est pas de la violence physique, hein, c'est de la légitime. Quelqu'un qui va casser une boutique pour aller piquer dans un magasin des Nike ou des téléphones portables, là c'est de la violence et par conséquent ce ne sont pas des défenseurs.
Et à quoi les États se sont engagés à travers cette déclaration du 9 décembre 1998 ?
Ils sont engagés d'abord à promouvoir la notion de défenseur, c'est-à-dire à faire comprendre dans leur propre pays, mais également à l'étranger, ce qu'est un défenseur, comment le protéger, comment le reconnaître, comment l'accompagner. Ils se sont également engagés chez eux à mettre en place des mécanismes, des dispositions pour protéger les défenseurs. Et ça a donné lieu au développement de grands mécanismes internationaux, puis nationaux, de protection des défenseurs.
Donc là, on voit qu'on est très très loin du discours ambiant de dénigrement, puisque les États non seulement ont reconnu la légitimité de chacun à défendre et promouvoir chacun des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en plus le rôle majeur des États pour les protéger, alors qu'on a quand même un discours très négatif aujourd'hui. Qu'est-ce que tu observes sur le terrain ?
La première observation, c'est que il n'y a pas de cohérence dans l'action des États entre leur action à l'étranger et leur action nationale. Je veux dire par là que beaucoup de pays sont tout à fait prêts, ils le font d'ailleurs, à financer de manière importante des mécanismes de protection des défenseurs à l'étranger ou à soutenir des ONG dans les pays du sud global, comme on dit, parce qu'en fait ils savent que c'est important de le faire. Mais quand il s'agit de regarder chez eux ce qu'il se passe, comment les défenseurs de leur propre pays sont traités, alors là on est loin du discours à la réalité. Et ce grand écart entre ce qu'ils font à l'étranger et ce qu'ils font sur le plan national est quelque chose qui va croissant malheureusement, et on constate à l'heure actuelle un grand nombre de pays, y compris dans les pays de l'Union européenne, d'obstacles qui sont développés par les États pour mieux contrôler, mieux contraindre et parfois bloquer l'action des défenseurs dans leur propre pays. Tout dans le même temps, consacrant toujours les mêmes sommes à l'étranger pour soutenir les défenseurs à l'étranger. Ce qui est un paradoxe qu'on a du mal à faire passer auprès des États.
Est-ce qu'on peut qualifier ça de discordance dans l'impératif interne-externe ?
Oui, c'est véritablement une discordance, puisqu'en fait, ils ne sont pas cohérents entre ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe chez eux. On aura plein d'exemples à montrer dans la suite du podcast.
Alors, je voudrais aussi qu'on s'arrête un instant sur le rôle de la société civile, car maintenant, on entend même, donc dans le discours politique, mais aussi dans les tribunaux, que militant serait un mot qui serait porteur d'une charge extrêmement négative, comme si s'engager et engager son action pour défendre l'environnement, la biodiversité, le vivant, ou bien sûr les droits humains qui sont bien sûr très connectés à ces notions-là, était quelque chose finalement d'idéologique et de malfaisant. Est-ce que tu peux nous brosser un peu des éléments autour de la société civile et aussi de son évolution, puisque aujourd'hui la société civile est devenue puissante et elle est extrêmement entendue aux Nations Unies ?
Oui, alors la société civile, elle est extrêmement diverse. Elle n'est pas toujours organisée. Comme on l'a dit, on commençait l'émission, donc les défenseurs ne doivent pas être forcément dans une organisation pour être des défenseurs. Les militants peuvent militer également de manière individuelle ou se regrouper de manière ponctuelle pour mener une action sans pour autant vouloir s'inscrire dans la longue durée. On a de plus en plus également l'émergence de mouvements sociaux. qui par définition ne souhaitent pas forcément s'encarter, s'enregistrer, mais simplement partagent une dynamique, une mobilisation contre quelque chose ou pour quelque chose. Et donc cette extrême diversité des comportements des militants ou des activistes montre bien qu'il faut la comprendre comme étant quelque chose de riche et qu'il faut contribuer à enrichir et ne pas s'opposer à cette diversité, à cette richesse.
Et donc cette société civile finalement n'a jamais été aussi influente. Ces campagnes sont largement documentées, fondées sur une expertise notamment juridique, mais pas que, aussi technique, qui est particulièrement reconnue. Elles arrivent à avoir une résonance assez inédite dans l'opinion publique, mais aussi au sein des mécanismes internationaux de contrôle. On peut notamment mentionner le rôle de grandes ONG internationales dans l'adoption de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, ou encore le prix Nobel de la paix qui a été décerné en 2017 aux ONG de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Comment le discours des ONG est reçu aux Nations Unies ?
Alors les ONG sont très bien accueillies par les Nations Unies, qui ont mis en place un tas de procédures, de processus, pour s'assurer qu'il y ait une participation effective de la société civile, pas seulement des ONG organisées, mais de la société civile dans la plupart des fora organisés par les Nations Unies. Les réunions de grandes conventions, le Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée générale ou les réunions des États parties de différentes agences ou organes des Nations Unies sont très organisées pour permettre de faciliter l'accès, l'accréditation de la société civile dans ces enceintes des Nations Unies. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que au-delà des Nations Unies, on voit des États menés par la Russie, menés par la Chine, avec le Venezuela, le Nicaragua, d'autres pays également d'Afrique, qui essayent de limiter ou de museler la voix de la société civile dans les enceintes des Nations Unies. Il y a notamment un comité, on n'a pas le temps d'y revenir, mais qui a pour charge de veiller à l'accréditation de la société civile. Et ce comité, malheureusement, il est contrôlé par ces États que je viens de décrire. Et ça rend donc de plus en plus difficile pour la société civile l'accès à ces enceintes. Les Nations Unies se battent pour ça, mais les Nations Unies ne sont que la somme des États qui la composent. Et si les États ne soutiennent pas les efforts faits par le secrétariat, alors bien évidemment, l'action sera moins efficace.
Alors il est important de rappeler que justement les mouvements des défenseurs, les actions de la société civile permettent de faire évoluer les pratiques, les législations, les politiques publiques. Et donc elles ont, il y a un effet extrêmement utile pour la protection de l'environnement et aussi pour rendre effectifs les droits humains. Et comme tu le dis, il y a donc cette tendance aujourd'hui à museler donc, ce qu'on appelle aussi le rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile ou le shrinking space. On note qu'il y a eu un changement de cap un peu dans les années 2004-2005, puisque l'International Center for Non-For-Profit Law recensait 120 lois restreignant l'espace des organisations de la société civile adoptées dans plus de 60 pays entre 2012 et 2010. Et quand on regarde un peu la typologie des méthodes employées pour restreindre l'action des militants, on voit que la moitié des restrictions législatives portaient sur le cadre juridique général des activités des ONG, un tiers sur les financements internationaux, c'est l'histoire des législations sur les agents de l'étranger, et 20% visaient directement la liberté d'association et de réunion. Et donc les techniques employées par les États, tout à l'heure tu mentionnais la Russie, visaient à stigmatiser les ONG comme agents de l'étranger, durcir les conditions d'enregistrement, limiter l'accès au financement des donateurs ou tout simplement les noyer sous des lourdeurs administratives ou même une fiscalité punitive. Ce mouvement, il est sémé autour de zones géographiques et maintenant il est beaucoup plus large. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce mouvement des États à s'inspirer finalement des États qui musellent le plus la société civile ?
Oui, alors malheureusement, tu as tout à fait raison. Ce qu'on constate, c'est que les États savent se parler entre eux et savent copier les mauvaises pratiques. Hein. Et donc, cette fameuse loi des agents de l'étranger que tu as évoquée au début, elle a essaimé partout. Et on voit que maintenant, en Afrique, en Amérique latine, dans la région du Golfe, en Asie, de plus en plus d'États copient cette loi, l'adaptent à leur cadre national pour essayer de mieux contrôler le financement et donc l'action des ONG. Parce que, rappelons-le, que s'il n'y a pas de financement, alors les ONG ne peuvent pas intervenir. Et les grands financeurs internationaux ne peuvent plus donner de financement aux ONG nationales. Et par conséquent, l'espace se réduit. On voit également les États passer de nouvelles lois, y compris en Union européenne, y compris dans nos pays, pour également mieux contrôler, mieux museler la voix de la société civile. Et particulièrement dans le domaine, par exemple, la liberté d'association. On voit qu'elle est de plus en plus contrainte parfois par des États qui demandent de passer d'un statut où on va simplement déclarer une manifestation à un statut dans lequel on demande l'autorisation de pouvoir manifester, ce qui est une grande régression par rapport aux droits prévus par les pactes internationaux.
Et donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, les défenseurs sont imaginatifs, ils sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir continuer à défendre les droits et arrivent à trouver un moyen pour se faufiler entre ces restrictions, pour pouvoir arriver à faire avancer des causes. Tu as évoqué tout à l'heure le fait de pouvoir ne pas se constituer en association, mais être juste un collectif. Quelle observation tu peux faire autour des mouvements comme le hashtag MeToo ou Black Lives Matter et les réseaux sociaux ?
Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à observer, et on les voit essaimer dans le monde entier. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec eux quand je voyage à l'étranger. J'essaie de les rencontrer. C'est difficile parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisation formelle, mais on rencontre les militants qui vous expliquent que pour eux, l'intérêt n'est pas d'être enregistré, d'avoir une association. Ils trouvent les moyens d'avoir des financements de manière très, très astucieuse. Soit c'est l'un d'entre eux qui reçoit les financements qu'ils partagent avec les autres, soit ils ont une banque mutualiste qui reçoit les financements et qui leur permet de mener leurs actions. Et donc, ces mouvements sociaux qui essaiment partout, sont un des moyens qu'a trouvé la société civile pour essayer de contrer les lois qui contraignent ou qui empêchent la société civile d'essaimer. Et pour ce qui concerne les grands mouvements que tu as mentionnés, donc le hashtag MeToo et les autres, on voit que ça démarre en fait par une petite initiative sur un compte Twitter où on vient dénoncer une injustice flagrante. Ça suscite de la sympathie, de l'enthousiasme, de l'adhésion. Et donc une petite voix sur Twitter va déboucher un mouvement international qui a le poids et la force qu'on connaît à l'heure actuelle.
C'est là où on voit que la singularité d'un message peut tout à fait rencontrer un écho universel et s'inscrire à l'agenda politique malgré ce que les responsables politiques auraient voulu.
Voilà, la grande richesse qu'on a pu constater à l'heure actuelle, c'est que les outils sociaux, Twitter, Instagram et les autres, c'est la rencontre des vraies personnes. Au fond, une personne, en lisant un message, découvre que sa situation est la même. Et puis une troisième, c'est la même. Et donc, de plus en plus de personnes se disent « ça me concerne, c'est moi aussi. Ce que tu décris, c'est ce que j'ai vécu moi-même. » Et donc, c'est comme ça que se crée cette agrégation de personnes qui, ayant vécu une expérience négative elles-mêmes, trouvent les moyens de se réunir de manière informelle pour lancer un mouvement qui va déboucher sur de grandes actions, de grande visibilité et ensuite de grande efficacité.
Oui, parce que souvent tu expliques qu'on, finalement on ne choisit pas vraiment de devenir défenseur. C'est les situations, l'injustice qui nous prend aux tripes, qui s'imposent à nous et qui font qu'on le devient. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que te
disent
les gens ?
Alors c'est quelque chose de tout à fait évident, c'est une grande découverte que j'ai faite dans mes missions à l'étranger. C'est que d'abord, la plupart du temps, on devient un défenseur par nécessité. Par nécessité, ça veut dire que parce qu'on est victime de soi-même d'une injustice. Quelques exemples, j'ai rencontré par exemple au Mexique des femmes qui, ayant perdu leur fils, leur frère, leur père, qui a été enlevé, qui a disparu, rencontrent d'autres femmes qui auront également perdu un proche et créent un mouvement de femmes de disparues. Ce mouvement de femmes de disparues devient ensuite une organisation non gouvernementale, donc un mouvement qui en fait revendique, qui s'organise, qui récolte des témoignages d'autres victimes pour mieux s'organiser. Un autre exemple avec l'Australie où j'ai rencontré des populations autochtones, donc des aborigènes, qui me racontent que tout à coup, soudain, ils ont vu des machines débarquer sur leur terrain pour venir creuser des trous. Et ils apprennent que la loi autorise les sociétés minières à faire de l'exploration. Pas l'exploitation, mais de l'exploration. Elles peuvent creuser des trous pour vérifier qu'il y a des minéraux précieux et donc ensuite éventuellement faire de l'exploitation. Et ces fermiers me racontent qu'ayant découvert que leur voisin, qui est proche avec la même terre, a subi la même injustice, qu'un troisième l'a fait également, ils se réunissent entre eux pour dire « combattons ensemble, nous serons plus efficaces ». Et donc c'est comme ça, par nécessité, qu'on crée en fait des organisations qui deviennent ensuite des organisations puissantes.
Et donc parmi ces défenseurs, tu as souligné que les défenseurs de l'environnement sont ceux qui payent le plus lourd tribut, que quand on veut les assassiner, c'est très difficile de pouvoir poser des limites et une protection. Est-ce que tu peux nous expliquer les bonnes pratiques, d'abord tes constatations et puis les bonnes pratiques que tu as pu observer dans certains États ?
Oui, alors c'est vrai que c'est grâce à l'action, encore une fois, de la société civile, des ONG, de grandes ONG comme Global Witness ou bien comme Frontline Defenders ou Amnesty, qu'on a mis en place un mécanisme de recensement des attaques contre les défenseurs. Et donc, dorénavant, tout est documenté grâce aux téléphones portables, grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est capable maintenant d'identifier toutes les personnes qui ont été menacées, qui ont été attaquées, qui ont disparu, qui ont été enlevées, qui ont été emprisonnées, qui ont été jugées. Et donc, on a une base de données des défenseurs qui sont attaqués, menacés. Et le constat qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est que malheureusement, ceux qui payent le plus lourd tribut, ce sont les défenseurs de l'environnement. On recense environ 400 assassinats de défenseurs dans le monde chaque année, et 80% des assassinats concernent des défenseurs de l'environnement, essentiellement en Amérique latine, aux Philippines et un peu en Afrique, mais on n'a pas la capacité maintenant de faire un travail d'investigation. Mais 80%, ça veut dire que tous les deux jours, un défenseur de l'environnement est assassiné. Et donc, dans les missions que j'ai pu faire à l'étranger, je me rendais compte que quand je visitais un pays, eh bien, je savais qu'après ma visite, il y aurait 15 défenseurs assassinés, pas forcément parce qu'ils m'avaient rencontré, mais qu'en tout cas, des personnes que j'aurais rencontrées auront été assassinées et auront payé le prix de leur engagement en faveur de la justice climatique ou bien de l'environnement.
Il y a une grande émotion qui a été suscitée par justement l'assassinat de Berta Cáceres. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu d'elle ?
Alors Berta Cáceres, c'est une grande militante environnementale qui a reçu un grand prix international qui est l'équivalent du prix Nobel de la paix pour l'environnement, qu'on appelle le prix Goldman, et qui est une femme engagée, qui était une militante de la cause LGBT également, une militante paysanne, une militante académique, et qui en fait a été assassinée après un grand nombre de menaces et qui a suscité une émotion internationale considérable parce qu'elle était une personne qui était importante pour la communauté internationale au Honduras et à l'étranger. Et malheureusement, je me souviens qu'elle a été assassinée la veille du jour où je présentais mon rapport sur les défenseurs de l'environnement aux Nations Unies. Et devant l'émotion suscitée par l'assassinat de Berta Cáceres, j'ai demandé aux ambassadeurs présents dans la salle des Nations Unies de se lever pour une minute de silence à la mémoire de Berta Cáceres, et tout le monde s'est levé dans la salle pour honorer sa mémoire, y compris les pays qui sont les plus réfractaires, les plus réticents à reconnaître l'action des défenseurs.
Alors, bien sûr, ce constat est très alarmant. Il faut pouvoir le poser, mais il y a aussi des mécanismes de protection dans certains espaces géographiques, comme dans l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, mais aussi au niveau universel. Est-ce que tu peux déjà nous parler des Nations Unies ?
Oui, alors les Nations Unies donc, ont décidé de mettre en place des mécanismes de protection, commençant par la mise en place de ce mécanisme de rapporteur spécial des Nations Unies, dont le rôle est de voyager les États, d'observer ce qui se passe et de revenir devant le Conseil, devant les ambassadeurs, pour raconter, dire ce qu'ils ont vu et mettre en place des procédures permettant de prévenir les attaques et de protéger les défenseurs. Et donc des outils ont été développés que les rapporteurs spéciaux utilisent maintenant. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais on le fera plus tard, de décrire l'action des rapporteurs spéciaux. Et de là est partie ensuite l'idée de créer des mécanismes plus régionaux. Et c'est là que l'Union européenne a mis en place donc un gros mécanisme pour assurer la protection des défenseurs sur le terrain, la protection physique des défenseurs, pas seulement une protection en donnant des directives ou des instructions aux États, mais comment au fond protéger physiquement un défenseur quand il était en danger. Et donc ce mécanisme qu'on appelle Protect Defenders, basé à Bruxelles, c'est la conjonction de 15 ONG internationales qui, sur les 5 continents, sont capables de relocaliser, mettre à l'abri à l'étranger un défenseur qui est menacé pour une période de 6 mois, 1 an, qui sont capables également de mettre en place sur le plan national des mécanismes physiques de protection des défenseurs. Et puis sur le plan national, quelques pays qui étaient les plus dangereux pour les défenseurs, comme la Colombie, comme le Mexique, comme l'Honduras ou comme le Brésil, ont mis en place de gros mécanismes de protection qui sont extrêmement puissants. Des véhicules blindés pour celles et ceux qui sont menacés d'attaques par balles, des gilets par balles, des boutons de panique, des barreaux aux fenêtres, des gardes du corps nuit et jour devant les assassins. Malheureusement, le constat que j'ai pu faire, c'est que quand on a décidé d'assassiner un défenseur, tel qu'en Amérique latine, eh bien on y arrive toujours. Il y a toujours un obstacle qui vient s'opposer à la protection. Le défenseur sort de sa voiture, il est pendant quelques minutes à l'abri, mais ensuite il est menacé, et donc une balle l'atteint dans la tête, et donc il meurt du jour. Et j'ai plein d'exemples comme ça de défenseurs qui, malgré des véhicules blindés, des gilets pare-balles, un bouton de panique, des gardes du corps, ont malheureusement été assassinés. Les sicarios, comme on dit en Amérique latine, sont souvent plus forts, ils savent comment assassiner. Et donc on peut prévenir les attaques, mais malheureusement, on n'est pas toujours toujours efficace dans la protection des défenseurs.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Force, pour cet échange. Finalement, ce que je retiens de notre discussion, c'est que la société civile n'a jamais été aussi puissante, et c'est sûrement pour cela que autant d'États se mobilisent pour essayer de la museler, la contraindre, enfermer les militants ou en tout cas dénigrer les défenseurs. Mais face à ça, il y a deux mouvements qui sont tout à fait réjouissants. Le premier, c'est que l'inventivité humaine est sans bornes et que les défenseurs, compte tenu de l'importance de la cause qu'ils ont à défendre, arrivent à se faufiler dans les restrictions pour pouvoir continuer à porter le plus haut possible et le plus fort possible les enjeux et la cause qu'il souhaite protéger. Et puis l'autre aspect, c'est que la communauté internationale a une grande conscience des dangers qui pèsent sur les défenseurs, des menaces, et s'organise pour créer un certain nombre de mécanismes de protection qui sont déclinés dans certains États, mais aussi au niveau régional et au niveau universel.
Gousses de vanille et fèves de cacao, mais aussi des pierres semi-précieuses, des métaux rares, des concombres de mer. Madagascar semble bénie des dieux, l'île est incroyablement riche en ressources naturelles, mais elle est aussi le symbole même du paradoxe que vit le pays. À la fois deuxième réserve de biodiversité mondiale et cinquième pays le plus pauvre de la planète. 2% de la biodiversité mondiale s'épanouit ainsi à Madagascar. Et l'île compte parmi les rares pays de ce qu'on appelle la mégadiversité biologique de la planète. Cela veut simplement dire que 80 à 90% des espèces animales et végétales qui vivent à Madagascar n'existent nulle part ailleurs sur la Terre. Et sur les 12 000 variétés de plantes, certaines donnent des épices ou des fruits qui font, comme on dit, un tabac à l'export, tels le litchi, la vanille ou la girofle. 85% de la production mondiale de vanille sont malgaches et l'île rouge domine ainsi totalement le marché avec l'Indonésie. Un dernier chiffre, 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, voilà l'estimation du potentiel total des ressources minières nationales. Les exportations de nickel ou de cobalt notamment pourraient tirer vers le haut les revenus du pays. Malheureusement, ces richesses sont très inégalement réparties. Parole à une militante malgache de l'environnement.
Alors, malgré la richesse de Madagascar en biodiversité, que ce soit en faune ou en flore, on constate que ces richesses sont inégalement réparties pour la population malgache. Et malgré le fait que la communauté de base qui sont installées localement prenne part à la gestion de ces aires protégées à Madagascar, il n'y a pas un impact palpable pour eux dans la gestion de ces réserves naturelles. Et on constate également qu'il y a pas mal d'exploitations illégale de ce qu'il y a dans les aires protégées. Alors, il y a des défenseurs des droits de l'homme dans le domaine environnemental qui dénoncent ces faits illégaux, mais la plupart d'eux subissent des représailles de partout. Actuellement, c'est encore un vrai défi pour la population malgache de préserver l'environnement et de pouvoir bénéficier de l'impact de la gestion de l'environnement et de pouvoir bénéficier de la biodiversité malgache.
Et alors les représailles, est-ce que les entreprises internationales qui opèrent à Madagascar, comme Rio Tinto ou les autres, est-ce qu'elles ont un impact, est-ce qu'elles sont menaçantes pour les défenseurs de l'environnement ?
Je pense que s'ils ont pu s'installer à Madagascar, c'est que les études ont été menées. Et quand ils s'installent, ils sont, je dirais, entre guillemets, obligés de donner un retour à la population locale. Donc ces entreprises pratiquent la RSE. Ces entreprises rétablissent peu à peu les environnements selon leur cahier de charges et ce qui a été mentionné dans leur contrat d'implantation ici à Madagascar.
Et donc, qu'est-ce qui est le plus alors menaçant pour les défenseurs de l'environnement ?
Alors, la situation de la corruption à Madagascar, c'est de pire en pire. On ne cesse de reculer par rapport à l'indice de perception de corruption. Sorti par Transparency International tous les ans. C'est vrai qu'à Madagascar, il y a eu une stratégie nationale de lutte contre la corruption qu'on a adoptée depuis des années de ça. Mais d'une manière générale, je peux dire que la lutte contre la corruption reste un grand défi pour Madagascar. Parce que toutes les sphères de l'administration, tous les services publics à Madagascar sont touchés par la corruption. À part la volonté de l'État qui s'exprime souvent par rapport à la tolérance zéro, par rapport à la corruption, il faut des actions concrètes de l'État, de ses organes qui luttent contre la corruption, mais il faut également impliquer les citoyens dans la lutte contre la corruption. Il faut que les citoyens soient conscients de l'impact négatif de la corruption par rapport à la génération future.
Dans les prochains épisodes, on vous invite à venir nous écouter. Nous parlerons de la façon dont les militants en faveur de l'environnement et de la protection du climat incarnent de plus en plus leur cause dans les prétoires. Donc, nous parlerons de la justice climatique. Nous parlerons aussi des procédures bâillon et puis de certaines catégories de défenseurs, comme les défenseurs des enfants.
Merci à tous, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à nous entendre et que vous aurez du plaisir à nous retrouver pour les prochains épisodes. Au revoir.
Au revoir.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.